Dimanche des rameaux, souvenir de l'entrée joyeuse de Jésus à Jérusalem. Premier jour de la semaine sainte de Pâques qui vit se dérouler ces événements extraordinaires. L'entrée à Jérusalem donc, le dernier repas pris par Jésus avec ses disciples, et nous venons de le prendre nous-mêmes avec lui, en obéissance à ses commandements. La nuit douloureuse à Gethsémané, l'arrestation, le procès inique, la condamnation, la crucifixion, la mort, puis la résurrection glorieuse de notre Seigneur. Je vous propose ce matin déjà une méditation sur le thème de Pâques et de sa signification profonde que j'aimerais simplement placé aujourd'hui sous deux chapitres, la colère de Dieu et la grâce de Dieu. Passer de la situation où l'on est toujours, au moins potentiellement, mais ô combien gravement, sous la colère de Dieu, à la situation où l'on est au bénéfice de la grâce de Dieu, c'est vivre ou avoir vécu Pâques dans son plein sens. Et c'est, entre autres, ce que le baptême figure. Beaucoup d'entre nous ont ainsi manifesté par le baptême leur passage de la colère à la grâce de Dieu. Et c'est le cas aujourd'hui de notre ami Junior. Nous nous réjouissons avec toi, Junior, que tu sois ainsi passé de la colère de Dieu à sa grâce. Nous lirons dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, versets 21 à 33. Exode 12, versets 21 à 33. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit : Allez prendre du petit bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cela comme une prescription pour vous et pour vos fils à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa parole, vous observerez ce rite. Et lorsque vos fils vous diront « Que signifie pour vous ce rite ? Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna et les Israélites s'en allèrent. Ils firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tout premier-né du bétail. Le pharisien se leva de nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites aussi. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi aussi. » Les Égyptiens pressaient le peuple. Ils avaient hâte de le laisser partir du pays car ils disaient « Nous périssons tous. » Pâques, c'est aussi l'histoire de la colère de Dieu. Dans ce récit de l'Exode, Dieu est en colère et il agit avec colère contre le Pharaon, contre l'Égypte et les Égyptiens. Après les 9 premières plaies et devant les résistances et les tromperies de Pharaon, il se décide à envoyer cette dernière et plus terrible plaie, la mort des premiers-nés. Depuis, dit le texte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'au premier-né de tout le bétail. Tout premier-né est frappé dans la colère de Dieu. La colère de Dieu. Un thème difficile, douloureux, gênant, que l'on hésite à aborder. Les attitudes des hommes sont diverses face à l'idée de cette colère de Dieu. Pour les uns, cette colère, si elle existe, les détourne du Dieu de la Bible, du Dieu de l'Ancien Testament. Voilà bien ce que nous pensions de votre Dieu. Le Dieu des Juifs et des chrétiens est un Dieu violent, féroce, coléreux. Quelle cruauté chez ce Dieu qui frappe ainsi un peuple, des hommes, des femmes, des enfants. Oui, nous nous détournons d'un tel Dieu. Ne serait-ce pas plutôt aux hommes de faire le procès de Dieu? Comment Dieu, s'il existe, permet-il le mal? Question classique, position habituelle. Nous accusons Dieu que les croyants monothéistes le défendent s'ils le peuvent. Nous voulons bien d'un bon Dieu, du petit Jésus, de Marie, toute douceur et miséricorde. Nous voulons bien d'un Dieu présent dans la nature, d'un Dieu philosophe, d'un Dieu qui pleure d'émotion au son des grandes orgues, mais pas d'un Dieu Seigneur, saint, qui juge et peut condamner les hommes. Pour d'autres, il semble au contraire qu'ils trouvent dans l'idée d'un Dieu vengeur, sévère et colère, une satisfaction qui peut mettre mal à l'aise. Dieu punit les méchants. Il envoie le sida pour punir les débauchés, les cataclysmes, les guerres à cause de l'incrédulité des hommes. Ils se réjouissent, cela, lorsque Dieu frappe, comme ses disciples de Jésus. « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu du ciel de descendre et de consumer ces hommes qui refusent que nous entrions, qui ne t'accueillent pas ?» Le Dieu de miséricorde, oui, peut-être pour eux, mais l'accent pour les autres, c'est avant tout le jugement, la colère, l'extermination. Cette attitude, on la trouve parfois, je le crains, chez certains chrétiens. Je crains que dans certaines positions évangéliques extrêmes, l'on ne soit pas loin de retrouver quelque chose de cet ordre. L'affirmation sans état d'âme apparent de la condamnation de ceux qui ne sont pas élus. Mais qu'en est-il vraiment de la colère de Dieu? Dans notre récit d'Exode, Dieu, effectivement, est en colère et il va punir. Qu'est-ce qui suscite sa colère? Les mauvais traitements dans son peuple a été l'objet de la part de Pharaon et des Égyptiens. Le refus de la part de Pharaon d'écouter Dieu, ses mensonges, ses reniements. L'obstination qui mène Pharaon à endurcir son cœur, à résister et à lasser enfin la patience de l'Éternel. Mais c'est plus que cela. C'est en fait l'ensemble du comportement des hommes qui déplaît à Dieu et suscite sa colère. Et ce ne sont pas seulement les Égyptiens qui le choquent. Le peuple d'Israël lui-même, en ce moment déjà et en tant d'autres occasions, est différent de ce que Dieu désire de lui, attend de lui. C'est pourquoi il va lui falloir bénéficier de la grâce de Dieu pour échapper à la colère du Seigneur. Intrinsèquement, il est lui-même pécheur, trop pécheur, pour ne pas mériter cette colère de Dieu. Dieu est saint. Dieu est saint. Il ne connaît pas le péché. Sa perfection souffre intolérablement du mal, du péché de l'homme. Toute la Bible nous parle de la sainteté de Dieu, de son horreur du péché, de cette différence fondamentale entre le Créateur et sa créature déchue. À la sainteté du Seigneur éternel s'oppose la corruption de l'homme. Dieu, pourtant, est patient. Il tente de ramener à lui les hommes, les peuples. Mais toujours ceux-ci résistent, se défendent, reviennent puis repartent, de pire manière encore, parfois. Ne faut-il pas dire que c'est là toute l'histoire du peuple élu que les Écritures nous rapportent? Tant d'occasions. Les textes sont nombreux qui nous parlent, exposent la colère de Dieu, les raisons, comme aussi cette lutte avec les hommes pour essayer, et avec son peuple, pour essayer de les sauver, ce combat de la miséricorde de Dieu et de sa sainteté. Quelques citations. dans la parole de Dieu. Exode 32, 10. Je suis en colère avec eux et je vais les détruire, dit Dieu, des Israélites dans le désert. Deutéronome 32, 21. Ils m'ont mis en colère, rendu jaloux avec leurs faux dieux. 1 Roi 16, verset 2. Leurs péchés ont éveillé ma colère. Psaume 106, verset 29. Ils déclenchèrent la colère de Dieu par leurs actions. Ésaïe 34, verset 2. Le Seigneur est en colère contre toutes les nations. Ésaïe 57, verset 12, verset 7. J'étais en colère contre eux à cause de leurs péchés et de leurs actions. Nahum, chapitre 1, verset 6. Quand il est en colère, qui peut survivre? Sophonie 1, verset 18. La terre entière sera détruite par le feu de sa colère. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu est révélée du ciel contre tous les péchés. Romains 2, verset 5. Au jour où la colère de Dieu et son juste jugement seront révélés. Éphésiens 2, verset 3. Nous sommes tous, nous comme tous, étions destinés à subir la colère de Dieu. Apocalypse 6, 17. Le jour terrible de sa colère est là, et qui peut y échapper? Nous devons parler de la colère de Dieu. Ce n'est pas un message facile, il en est de plus agréable. Mais nous devons dire que ce n'est pas aux hommes de juger Dieu. Qui sont-ils pour cela? Nous devons dire que c'est Dieu, le Dieu saint, le Dieu créateur qui juge les hommes et que tous sont pécheurs et méritent sa colère. Nous devons tenir un autre discours qu'un discours rassurant, banalisant. Mais non, vous n'êtes pas si mal que cela. Vos efforts mériteront bien sa clémence. Non, vous êtes pécheurs comme nous le sommes, comme je le suis, et exposés à sa colère, à son juste jugement. Mais ce discours ne doit et ne peut être un discours tenu légèrement, comme si nous prenions plaisir à dire ces choses douloureuses, ou comme si nous étions d'une autre nature. Ou encore comme si Dieu prenait plaisir à condamner les hommes. Et cela tout spécialement est contraire à la vérité révélée. Dieu est lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Il punit le coupable, mais il souhaite son salut. Ce n'est pas facilement, ce n'est pas légèrement qu'il punit et détruit. Souvenez-vous de ce qu'il dit à Jonas à propos de Ninive, la grande ville. « Je n'aurai pas pitié de cette ville où les hommes ne savent même pas distinguer leur gauche de leur droite. » Jonas 4, verset 9. L'histoire de Pâques, c'est donc l'histoire de la colère de Dieu. Mais c'est aussi et c'est surtout l'histoire de la grâce de Dieu. Regardons déjà à l'attitude de Dieu vis-à-vis même des Égyptiens. Mesurons-nous la patience de Dieu? Toutes ces plaies envoyées par Dieu sont autant de manifestations de sa patience, de son désir que Pharaon et les Égyptiens comprennent, se repentent, laissent Israël partir en paix. Dieu aurait pu, nul n'en doute, écraser d'emblée la résistance des ennemis de son peuple. Mais son souhait est tout autre. Il ne serait que trop heureux si Pharaon acceptait d'entendre. De même, qu'il souhaite la conversion de Ninive, de même, il souhaite que les Égyptiens comprennent et profitent de sa patience pour changer, pour revenir de leur mauvaise voie. Chacune de ces plaies qu'il envoie, terrible en elle-même, est donc pour autant à chaque fois une preuve de la patience et de la grâce de l'Éternel. Et cette dixième plaie elle-même, pour douloureuse et extrême qu'elle soit, est encore une mesure bien limitée de la possible force punitive de Dieu. Dieu frappe tous les premiers-nés. Il fait grâce à l'ensemble du peuple égyptien. Dans sa colère, il a encore le souci de ne frapper que le moins possible. Dieu de colère, Dieu saint, Dieu juste, mais Dieu si désireux de préserver la vie, de ne pas détruire, de sauver. Toujours cette préoccupation est la sienne. Comment amener ces créatures, les hommes, à se repentir? Comment les empêcher d'aller de plus en plus vers le mal? Comment vivre sa sainteté à laquelle il ne peut renoncer et préserver et sauver cette pauvre humanité qui a tant besoin de pardon, de grâce, de vie? vis-à-vis des enfants d'Israël, aussi Dieu fait preuve de grâce et de miséricorde, de deux manières différentes et complémentaires. En les libérant de leur esclavage en Égypte et en les sauvant de sa colère. Dieu veut voir son peuple libre. Il a vu sa souffrance en Égypte. Il a envoyé Moïse pour libérer son peuple et il réussit, malgré l'opposition de Pharaon, à le faire sortir d'Égypte. Dieu a voulu son peuple libre, heureux, épanoui. Et le bonheur de Dieu, c'est de voir Israël sortir enfin de la captivité, de l'esclavage en Égypte. Mais Dieu a aussi et d'abord manifesté sa grâce en protégeant Israël de l'ange exterminateur. C'est protégé par le sang d'un agneau immolé que le peuple juif n'a pas vu ses premiers-nés mourir. Notons bien cela. Israël aurait été frappé aussi comme l'Égypte s'il n'avait été placé sous le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple, sous le signe de la grâce et du pardon par la foi et l'obéissance. Israël, victime des Égyptiens, Israël, esclave souffrant, n'est pas innocent et juste aux yeux de Dieu saint. Israël a besoin que Dieu l'épargne dans sa grâce. L'obéissance du peuple à ce commandement de se placer sous la protection du signe du sang d'un agneau est la seule condition au salut offert. La vie des premiers-nés épargnés et la libération de l'esclavage. La grâce de Dieu qui s'est exercée malgré sa juste colère vis-à-vis des Égyptiens et des enfants d'Israël se manifeste encore et s'est manifestée pour les hommes d'hier et d'aujourd'hui. La patience de Dieu envers les hommes est une constante. Sans cesse, il a pitié, il pardonne, il tarde à punir. S'il expose à quelque épreuve, à quelque punition, c'est toujours de façon bien moindre que ce que mériterait le péché de l'humanité, notre péché. Et toujours en laissant le plus de temps et d'occasion de repentance, de changement à l'homme rebelle. Quel homme, dans sa vie, s'il sait regarder honnêtement à tant soit peu, ne peut reconnaître que Dieu l'a généreusement traité, a été patient, mesuré dans ses réprimandes, lui offrant tant d'occasions de changer, de se repentir, de venir à lui. Il est un jour où la patience de Dieu peut se lasser. Ce jour vient dans la vie de chacun si l'on ne se repent. Mais il ne vient pas vite. Puis chacun en profiter de ce temps laissé, mais sans en abuser. Chaque homme peut faire l'expérience extraordinaire faite par les enfants d'Israël en Égypte lors de cette première Pâque. Être l'objet de la grâce de Dieu, être pardonné, ne pas être puni pour ses péchés comme il serait simplement juste de l'être, mais être aussi tiré de l'esclavage du péché et passer ainsi à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Chaque chrétien vit cette expérience-là. Il est déclaré innocent. Il est mis au bénéfice du sacrifice de l'agneau immolé. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le premier-né de toute la création. Oui, ce n'est plus par le sang d'un agneau quelconque, pour un salut transitoire et partiel, mais par le sang de l'agneau, Jésus, que le chrétien est sauvé de la colère de Dieu. La justice de Dieu épargne le pécheur parce que son péché a déjà été payé par la mort de l'agneau, du Fils bien-aimé de Dieu, Jésus le Christ. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 9, versets 11 à 14. Christ, dit-il, est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendonule génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Et chaque chrétien vit aussi cela. Trouver une vie hors du péché, hors de la servitude, vivre d'une vie nouvelle, en marche vers la cité éternelle, vers le royaume de Dieu. Je ne suis plus esclave, mais un homme libre, car libéré par le Christ. Non plus esclave de l'Égypte, c'est-à-dire esclave du péché qui nous dominait si complètement, mais enfant de Dieu, héritier et co-héritier du royaume. Je ne vous appelle plus serviteur, dit Jésus à ses disciples, mais mes amis. L'homme qui est pardonné, dont le péché a été mis au compte de Jésus, qui est déclaré juste devant Dieu, entre dans une vie nouvelle, qui n'est plus celle de la chair, qui n'est plus celle du mal et du péché et de la servitude, mais qui est celle de l'épanouissement, de la joie, de l'amour en Dieu et par Dieu. Redisons-le, si cela est possible, c'est à cause de Christ, l'agneau immolé. Il a porté nos fautes et nos forfaits. Lui, le saint et le juste, a été frappé à notre place. Le châtiment qui nous condamnait est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons la paix et la guérison, dit Ésaïe au chapitre 53. Il n'y a là aucun motif à nous glorifier, à nous vanter. Tout est grâce. Moïse et son peuple ont été sauvés, tirés hors d'Égypte, non à cause de leur mérite, non à cause de quoi que ce soit, sinon à cause de l'amour et de la grâce de Dieu. Le chrétien de même n'a d'autre mérite que les mérites de Christ, sa mort, sa souffrance, la justice du Christ. Mais de même que Moïse et le peuple ont dû, pour sortir d'Égypte, obéir et se placer sous la protection du sang d'un agneau, de même aujourd'hui, nul ne peut être sauvé s'il n'exerce sa foi et n'obéit à Dieu en croyant que Jésus est mort pour lui. Pâques, c'est l'histoire de la colère de Dieu contre le péché des hommes. Pâques, c'est l'histoire de la grâce et du pardon de Dieu pour les hommes, pour son peuple, pour tous ceux qui se repentent et reçoivent ce qu'il veut donner, le pardon et la vie éternelle. Sauvés et régénérés qu'ils sont, par le sang de l'agneau immolé, Jésus le Christ. Pâques, l'histoire de la vie. Israël sorti d'Égypte, l'homme pécheur sorti de l'esclavage, du péché et de la mort. Jésus mort pour le salut de beaucoup, revenu à la vie, vivant aujourd'hui, à jamais. Jésus, la vie. L'agneau de Dieu mort pour les hommes, lui le saint et le juste, n'est pas resté dans la tombe. Au matin du troisième jour, et c'est aussi le beau, le merveilleux message de Pâques, il est sorti du tombeau, vainqueur du mal, du péché, de Satan, de la mort. C'est là ce qui, aujourd'hui, nous réjouit, va nous réjouir toute cette semaine et tous les jours de l'année. Le Seigneur Jésus, notre Sauveur, est vivant. Il a tout accompli, tout mené à la perfection. Avec l'apôtre Paul, nous disons dans la plus grande joie l'œuvre de Christ et sa résurrection. Ce qui est la belle histoire de Pâques, la plus belle histoire finalement de l'histoire du monde. Et je vous propose quelques extraits de ce que Paul écrit dans sa première lettre, aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 8. « Je vous rappelle, frère, dit-il, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les douze. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, dit Paul, il s'est fait voir à moi comme à l'avortant. Et un peu plus loin, Paul reprend encore cela, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est le premier-né de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Mais ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Un dernier mot donc. L'histoire de Pâques, aujourd'hui, dimanche des Rameaux, début de la semaine sainte. Pâques aujourd'hui, pour vous, pour nous, pour moi. Ce message, l'avons-nous entendu? Le recevons-nous? Y répondons-nous? Cette histoire demande une réponse. Quelle a été votre réponse? Nous avons entendu ce qu'était la réponse de Junior. Quelle est-elle, cette réponse? Entendons-nous le message de la colère de Dieu? Entendons-nous le message de sa patience? Entendons-nous le message de sa justice? Entendons-nous le message de sa grâce? Entendons-nous le message de la vie? Entendons-nous le Christ? Amen.